Au départ, j'étais chez les amis, je me suis retrouvé à faire une crise, ils ont appelé les pompiers.
Je me rappelle que pendant le trajet, je transformais tout ce que disait la radio contre moi, en fait, j'entendais des voix.
Je suis resté 3 mois, de juin à septembre.
C'est l'heure des médicaments.
Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit.
On reconnaît une société à la façon dont on traite les fous.
Pendant que les psychoses...
Pendant que les psychoses...
Je deviens impatient.
Il n'y a pas la folie d'un côté, puis l'intelligence de l'autre. Un type qui n'est pas fou du tout, c'est plutôt louche. C'est une sorte de folie plus grave.
Une série du GEM, le nouveau cap. Groupe d'entraide mutuelle.
Épisode 3.
Les psychiatres y règnent en maître. On y arrive parce qu'on a perdu le sens des distances avec ce qui s'appelle communément la folie. On se retrouve enfermé contre son gré à l'hôpital psychiatrique. On fait une nouvelle tentative de suicide entre les murs, vu que c'est pas possible d'être arrivé là et qu'il faut couper avec quelque chose de tranchant. Le fil qui te tient dans ces lieux où les gens ont des yeux éclairés par une force douce et dérangée. Les portes sont fermées à clé par les infirmiers qui font office de geôliers. Personne ne rentre ni ne sort sans la permission des hommes en blouse blanche. Ce sont les gardiens du repos des malades, parce qu'ici demeure un lieu de tranquillité. Les gens sont soignés par le silence. Personne ne joue de guitare, mais on peut hurler ou frapper avec son pied la tête d'un sale type dans le fumoir. De toute façon, une fois dedans, vous sortirez quand on vous le dira. Vous serez resté 3 mois allongé, pris par vos tourments ou à cloper avec les autres patients, qui sont devenus des amis, qui disparaîtront ou vous rappelleront une fois dehors.
Julie, Pascal et Pix en sont sortis. S'en sont sortis.
Quand on arrive à l'hôpital, tout de suite 2-3 piqûres dans les fesses. 3 minutes, 4 minutes après on dort. Mais c'est pas les petites doses, on l'a dit, pour faire dormir les gens aussitôt. Quand je me suis réveillé, comme à l'époque il y avait des enlèvements au Liban, tout ça, j'ai pensé que j'avais été enlevé parce que je voyais des murs en face de moi, des fenêtres, tout, me disait où je suis, j'avais aucune idée que je pouvais être à l'hôpital. Et après, le lendemain matin, j'ai quand même compris parce que j'ai vu un infirmier qui m'apportait à manger.
Déjà, je suis arrivée tard le soir et tout le monde dormait déjà. Et moi, je suis arrivée, je me demandais ce que je faisais là. Et quand le médecin psychiatre est arrivé, je me suis dit, oh là là, comment ça va se passer et tout. Enfin, ouais, j'étais hyper inquiète.
On m'a bourré de médoc pour faire passer le mal-être. Mon état a fait qu'empirer. J'étais plutôt assommé quoi, par mon mal-être, quoi, par la solitude, la fatigue, l'angoisse. Quoi. Dès que je suis arrivé, les premières semaines, j'ai demandé à sortir. En fait. Et je ne pouvais sortir qu'avec des infirmiers infirmières. Donc ça en renforçait encore plus mon enfermement. Je le vivais encore plus comme une prison. Donc quand j'ai eu des permissions de sortie, au moment de revenir à l'hôpital, j'ai fait une tentative de suicide, en fait.
J'étais jeune, quoi, donc j'ai super mal vécu. Je voyais pas mes sœurs, je voyais pas ma mère, je voyais pas ce cocon familial que j'avais aussi autour de moi, quoi. Donc, c'est compliqué, être trop seul dans une chambre d'hôpital et t'attends que les jours y passent. À 15 ans, quand on dit qu'il va être schizophrène, enfin, surtout que mon premier psychiatre, la première fois qu'il a vu ma mère, il a dit « Votre fille, elle sortira jamais des hôpitaux psychiatriques, elle restera toujours enfermée dans sa cellule et dans sa chambre d'isolement et elle sortira jamais, quoi. » Je pense que quand une maman entend ça, ça fait pas forcément plaisir, mais quand moi j'entends ça aussi à côté, je me dis, ouais, c'est un peu... Il manquait cruellement de tact et cruellement d'humanité, en fait. Hein. C'est pas du tout vrai, la preuve, maintenant je suis plus en psychiatrie, donc oui, j'ai prouvé le contraire.
C'était un hôpital en pleine campagne, hein. C'était pas du tout en ville, c'était isolé vraiment en campagne, il y avait des jardins autour, C'était voulu à l'époque comme lieu de soins, mais depuis il a été détruit. Hein. On essuyait la vaisselle, on la lavait, on mettait la table, des choses comme ça. Quoi. Il faisait participer les gens. Quoi. Mais je n'ai pas retrouvé ça ailleurs, nulle part. Hein. Et je me rappelle aussi, c'est ça, il y a 20 ans, on avait une infirmière référente qui nous posait des questions tous les jours sur comment ça allait. On faisait des routes de parole. Est-ce que vous voulez venir discuter d'un problème ? Oui, j'arrive. 20 personnes comme ça autour d'une table. Chacun donnait son avis. C'était abandonné parce que j'ai jamais retrouvé ça après. Hein.
Je me levais, je prenais mes médicaments, je déjeunais. J'essayais de lire dans ma chambre, j'avais du mal à lire, c'était compliqué. Mais j'avais pas beaucoup de contact avec les autres. Quoi.
Ben, au début, j'avais énormément de traitements. Je me rappelle, je dormais énormément, je dormais toute la journée et tout. C'était pas simple, j'aurais même pu réfléchir. Et même la première fois que j'ai revu ma sœur, je tremblais tellement que j'arrivais même pas à mettre une veste. Et du coup, ma sœur qui a vu ça, elle était un peu triste de la situation. Quoi. Ouais.
Je pense que ce qui faisait mal aux gens, c'était de me voir comme ça, en fait. Surtout quand on venait me voir, ma famille et tout passait pour prendre des nouvelles et que je ressemblais de plus en plus à un zombie, quoi. J'ai l'impression de devenir un légume. Au fur et à mesure que l'hospitalisation avançait, c'était ça, quoi.
Et finalement, au fil du temps, bah, vu que j'allais un peu, ça se stabilisait un petit peu, bah, du coup, je commençais à diminuer les traitements un petit peu. Les infirmiers, ils étaient super, j'ai de la chance. Ils ont été très soutenants, que ce soit pour ma famille, pour moi, enfin voilà, ils ont été super. Au début, je pensais qu'ils étaient un peu contre moi, ça, mais en fait, pas du tout. Et au contraire, ils m'ont énormément soutenue, même face aux médecins. Et quand ils ne voulaient pas me donner de permission ou choses comme ça, ils sont mis vraiment en travers du médecin.
L'hôpital ne m'a pas du tout calmée, en fait, d'être coupée en fait, de mon milieu. Mais j'avais plus cette présence-là qui me rassurait, en fait. Ça a été compliqué. Et au bout d'un moment, j'avais plus envie d'être honnête. Donc je disais que ça allait. Alors que ça va pas, je me sens seul, je n'ai aucune affinité avec les gens, j'ai qu'une envie, c'est de sortir. À un moment donné, je disais que ça allait. Voilà. J'ai un peu joué la comédie pour sortir le plus vite possible. Quoi.
Il y a différentes pathologies. Hein. Je voyais bien qu'il y avait des gens qui n'avaient pas la même pathologie que moi. Hein. Il y en avait qui étaient là toute l'année, hein, qui étaient mélangés avec nous, qui ne sortaient jamais de l'hôpital. Hein. Et ce qui est triste aussi, c'est quand on voit des gens partir.
Il y avait des enfants donc assez jeunes. Il y en avait qui avaient 2 ans, il y en avait qui avaient 10 ans, enfin voilà, il y avait tous les âges. Et bon, quand je suis arrivée là-dedans, je me suis dit, oula, qu'est-ce que je fais là? Il y en a certains bah, qui ne parlaient pas ou qui avaient des grosses difficultés. Mais d'un côté, c'était rassurant aussi de me dire que je n'étais pas toute seule à vivre des choses, à souffrir de troubles psychiques aussi, quoi, enfin, ouais, de ces maladies-là. Il n'y avait rien, aucune activité en fait, quasiment aucune. On jouait aux cartes avec les autres patients, enfin, on essayait de s'occuper, mais on regardait la télé. Bien sûr que des activités, ça aurait été bien. Quoi.
On laissait les gens à rien faire. Quoi. Ils erraient plus ou moins. Quoi. C'est ce que j'ai connu quand j'étais à Argenteuil. Hein. Les gens erraient dans une salle. L'art est rentré dans l'hôpital depuis 20 ans. Mais avant, il n'était pas question de faire du modelage ou je ne sais rien, du dessin, ou aller se promener. Puis en plus, comme on est entre malades, bah, pour les discussions, ce n'est pas terrible. Hein. En plus, c'est des gens qu'on n'a jamais vus. Hein. On ne sait pas comment aborder la conversation. Hein.
Je ne savais pas quand est-ce que j'allais sortir de l'hôpital. Et ça, je pense que c'est une grosse contrainte parce que c'est un peu frustrant de ne pas savoir, de ne pas avoir de date, puis de se dire bon, quand est-ce que j'irai mieux, quand est-ce qu'il faut. Enfin, c'est ça aussi.
C'était ça qui était inquiétant, quoi. C'était de ne pas avoir de date. Je me disais, mais je vais rester combien de temps, quoi. Enfin, on me donnait de plus en plus de médicaments. Du coup, j'avais l'impression d'être un zombie, quoi. D'être complètement. De plus avoir d'émotions, de plus avoir de. Je l'ai vécu un peu comme un abus de pouvoir, en fait. Je ne l'ai pas du tout vécu comme du conseil, un accompagnement, une aide.
Ce qui m'a aidé à m'en sortir, c'est ma famille surtout, mais aussi le fait que j'avais envie de retrouver une vie à la normale, en fait. De pouvoir m'épanouir aussi dans la vie. Et voilà, avec la maladie, c'est sûr que le comme après ne sera jamais comme le comme avant, mais je crois que l'acceptation a été assez dure pour moi et. J'ai cheminé dessus, mais quand t'as 15 ans et qu'on te dit bah, tu pourras plus faire ceci, tu pourras plus faire cela, tu pourras plus aller en cours, enfin voilà, c'est quand même c'est moi ce que j'ai toujours voulu retourner en cours et au final j'ai pas trop réussi à finir ma scolarité, mais je suis un peu retournée au lycée un petit peu, mais ça c'était chaotique, quoi. Enfin, j'avais un planning spécial, enfin... Parce que j'étais très fatiguée par les traitements, et du coup, je pense que les traitements m'ont complètement cassée, et du coup, j'ai lâché tout, et voilà, j'ai arrêté la scolarité.
Ils étaient prêts à me faire faire une sismo. C'est des électrochocs. C'est quand on est très déprimé, pour justement stimuler de nouveau la personne, on lui fait faire des électrochocs. Et donc, quand je suis arrivé en sismothérapie, j'ai discuté avec un médecin, donc j'étais prêt à faire l'opération. Et il m'a demandé ce que je voulais faire cet été. Et cet été, j'ai dit, bah, j'aimerais bien partir à la montagne et tout. Et il a vu que j'avais encore du peps, du désir, que j'avais envie. Et du coup, la sismo n'a pas eu lieu.
En pédopsychiatrie, je régressais un peu. J'avais tendance à devenir un peu plus, enfin, moins autonome. Et du coup, bah, après, quand j'étais chez les adolescents, ça a été différent, mais ça s'est super mal passé chez les adolescents, donc ouais. Je suis habituée à avoir des psychiatres un peu... un peu... pas très professionnels, je dirais, ouais. Bah, quand j'étais chez les adolescents, du coup, j'ai fait quasiment... Ouais, j'ai dû faire facilement un mois et demi d'isolement.
Un mois en chambre d'isolement, ouais. Du jour au lendemain, accompagnez-nous, puis ils nous mettent là. Ils ne donnent pas de détails. Hein. On a maté dans le noir, on vient pour nous doucher, mais on voit personne de la journée. Hein. On n'a aucun repère, on est complètement isolé. Hein.
T'as qu'un matelas au sol, il n'y avait même pas un seau pour uriner. J'avais uriné dans la cellule, ils m'avaient disputé, enfin, c'était compliqué. Quoi.
C'est vraiment anxiogène, hein. On est tout seul. On n'a aucun repère temporel, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de pendule, il n'y a rien, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien.
Rien pour t'occuper. Du coup, le temps paraît hyper long. Enfin, t'as l'impression que les journées, c'est trois journées en une. C'est juste pas possible, en fait. Même pour les repas, t'as pas le droit de sortir de manger avec les autres. Enfin, c'est... Ils t'apportent un plateau en chambre et puis ils restent avec toi parce que ben, y a le couteau donc, pour manger. Donc, et l'infirmier reste le temps que tu manges et ils discutent même pas. Enfin, ils prennent même pas le temps de discuter. Et après, ils récupèrent le plateau et ils s'en vont. Puis tu restes toute la journée dans ta chambre d'isolement, quoi. Je pense pas que c'était une sanction, je pense que quand t'étais pas bien, t'allais en cellule d'isolement, alors que, bah, au contraire, ça te rend encore moins bien, quoi. Donc, ouais. C'est pas humain, ces conditions-là, t'as même pas une fenêtre, t'as juste quatre murs et un matelas au sol.
C'est pas comme ça qu'on peut s'en sortir, hein. J'ai dit à mon médecin, c'est pas un lieu de soin pour moi, chambre d'isolement. Il m'a répondu, c'est parce qu'on n'a pas assez de personnel pour s'occuper des gens.
J'ai pas pensé suicidaire en isolement, mais... Après, quand je suis sortie de la cellule d'isolement, ça faisait trop bizarre parce que ben, le fait de revoir des gens, de remanger avec des gens, quand t'es coupé du monde pendant un mois et demi, après, quand tu retournes avec les autres, ça fait un décalage, en fait. T'as l'impression de ne plus être un être humain.
Quand on est dans un local à l'hôpital et qu'on bouge pas, je vois pas comment la santé peut s'améliorer. Hein. Parce que qu'est-ce qu'on a comme rapport? Des murs, des gens malades autour de soi, des médicaments. Parce qu'après, on va parler des problèmes des gens en prison. C'est la même chose, hein.
Du coup, ma mère, elle m'a sorti contre avis médical des adolescents. Donc là, ça a été un peu en bas de combat.
J'avais le sentiment que l'institution prenait le dessus. On suivait, quoi. Ils décidaient un peu pour moi et la famille. Par cette fragilité, on était un peu plus vulnérables. J'avais envie d'autre chose et je pense qu'on aurait pu faire autrement, ouais. Avec le recul, avec le temps, même si je reconnais que c'est pas toujours facile pour un psychiatre ou une psychiatre de juger ce qui va pas, si la personne est en crise, si elle peut aller encore plus mal, si elle peut se faire du mal. Enfin, je sais que c'est compliqué, mais c'est important aussi d'être à l'écoute du désir de la personne, quoi. J'en garde vraiment un très très mauvais souvenir de mon hospitalisation. Même s'il y avait une crise à gérer, je pense qu'on aurait pu gérer ça différemment, quoi. Donc une expérience assez traumatisante, hein, quand même.
Avant de sortir de l'hôpital, moi j'étais resté 3 mois, donc j'avais la barre qui avait poussé et les cheveux longs. Donc j'avais dit avant de sortir, je voudrais aller chez le coiffeur. Et quand je suis arrivé chez le coiffeur, je lui ai demandé ma carte bleue, je ne me rappelais plus du numéro. C'est incroyable, hein.
Après, j'étais hospitalisée chez les adultes, de mon propre gré. Et c'est là qu'un psychiatre compétent, pour une fois que j'ai eu, il m'a dit, vous allez aller au Pain en Mauge, en fait, c'est une clinique spécialisée dans la psychiatrie, tout ça. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment reprendre du poil de la bête, quoi. Ça a été le début vraiment du rétablissement, en soi, du processus de rétablissement.
Donc il y a quand même pas mal de solutions, le CATTP, l'hôpital de jour, l'hospitalisation à domicile, avant peut-être d'aller à l'hôpital, quoi.
J'ai pas gardé de traumatisme de l'hôpital parce que je me dis que c'était pour mon bien au final, mais bon, après, voilà. C'est pas l'idéal, les infirmiers manquent de temps, Les psychiatres sont pas forcément toujours très à l'écoute, très, très objectifs et très professionnels. Ça manque de communication, tout ça.
Aujourd'hui, j'ai un psychiatre différent. Ça se passe beaucoup mieux. Et en fait, j'aurais dû changer depuis longtemps. Je sais pas pourquoi, je suis resté avec la même psychiatre. Je sais pas, peut-être que j'osais pas. Elle était assez distante, assez froide, quoi. C'est ça qui me convenait pas. Je trouvais qu'elle manquait un petit peu d'empathie, quoi. Parfois, quand je lui parlais, elle bâillait. C'était un peu quand même gênant, quoi. Je sais que je suis pas forcément toujours intéressant, mais si on peut éviter, des fois, de le faire, ça serait pas mal.
Je dirais aussi peut-être les activités aussi, mais le plus d'activités thérapeutiques, ouais. En place, même rien que du sport une fois par semaine, ou je sais pas, pendant les hospitalisations, parce que moi j'avais pas trop d'activités pendant que j'étais hospitalisée.
Et je pense qu'ils sont, ils sont de bonne volonté, mais il manque de personnel, il manque de temps. Et je pense qu'il n'y a pas assez d'ouverture sur l'extérieur.
Maintenant, on pense qu'il faut mieux soigner les gens en dehors de l'hôpital, dans la ville. Ce qui paraît évident, parce que comme ça, ils ont un rapport à la société. Qu'en les isolant, ça renforce leur mal-être.
C'est ça aussi qui manque à l'hôpital, je pense, c'est pouvoir se réunir, se rencontrer, être dans une démarche un peu plus collective, parce que là, c'était vraiment très individualisé, quoi.
C'est plutôt pas l'hôpital que je condamne, c'est la façon dont on s'en sert. Mais je pense que maintenant, on devrait réfléchir à plutôt trouver des lieux intermédiaires. Ça coûte très cher à la sécurité sociale, mais malheureusement, on n'a pas le personnel en France. Hein. Il manque d'infirmiers dans tous les domaines, encore plus en psychiatrie. La psychiatrie, c'est le dernier maillon de la chaîne en France du point de vue des services des hôpitaux. C'est là qu'on donne le moins d'argent. C'est connu, c'est le parent pauvre de l'hôpital, hein, la psychiatrie. Je sais, par exemple, la défenseuse des droits en France, là, qui s'occupe bien des prisons, des hôpitaux, puis je ne sais plus quoi encore, elle trouve ça inadmissible. Hein. Moi, je fais beaucoup de parallèles entre la prison, parce que c'est un lieu fermé, hein, faut bien voir. Hein. Parce que dès qu'on est enfermé, on sent la pression. Hein. On les déshumanisait. Hein.
Aujourd'hui, je me sens mieux. C'est quand même un peu comme tout le monde, quoi. Il y a des hauts et des bas, quoi. Mais il y a quand même plus de hauts. Je pense que je me prends un peu mieux en charge. Je me connais mieux aussi. Donc ça aide aussi.
Bah aujourd'hui, tout va bien. Je touche du bois. Non, mais tout va bien. Après, je suis pas à l'abri d'une rechute, je le sais. Hein. Mais pour l'instant, je prends soin de moi. J'ai une hygiène de vie assez régulière. C'est-à-dire que le sommeil, pour moi, c'est très important. Si je manque de sommeil, c'est comme ça que je rechute. Donc, ouais, c'est vraiment les signes précurseurs de la crise. Donc, du coup, je suis hyper vigilante à ça. Et puis, je pense qu'aussi, le sport m'a beaucoup aidée, mine de rien, à me canaliser, à mieux gérer mes émotions aussi, parce que... Bah, pas toujours facile de gérer ses émotions quand on souffre de troubles psychiques.
Je me sens mieux maintenant qu'avant. Ouais. En vieillissant, on prend plus de recul par rapport à sa maladie et on attache moins d'importance aux choses.
C'est rassurant aussi pour moi de me dire que ben, finalement, ça fait 12 ans que je n'ai pas été hospitalisée.
Moi, je dirais qu'on sous-estime le potentiel humain de se remettre en forme.
Ça fait une dizaine d'années que j'ai pas été hospitalisé. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que si j'allais moins bien, je ferais tout pour rester chez moi et pas aller à l'hôpital.
L'hôpital ? J'espère que j'y retournerai pas.
J'ai les yeux qui pleurent, ils gesticulent de peur. Dans l'axe des vestibules, de fous dans leurs cellules. Je fais du rameur. Dans une mer de larmes, les muscles chutant de sueur en ont perdu leur charme. J'ai les yeux qui meurent, ils n'ont plus de chaleur. Attirant à l'allure d'une amande, je me prends du métisme de l'aimant. Jamais vraiment en face des trous, gravé dans le marbre beau brou. Un arbre surplombe une tombe, un homme dans son ombre y tombe. Un arbre surplombe une tombe, un homme dans son ombre y tombe. J'ai les yeux qui ruissellent de couleur, des accès pêle-mêle de douleur, sans dessus, dessous le sel, le goût du sang sans son essai. J'ai les yeux qui disent adieu aux prunelles de mes antennes, par un feu d'artifice fastidieux, pêle naturelle de ma fontaine. En d'autres termes, larmoyant se termine l'oraison pour ma raison.
Verser une goutte et prier aux croyants, ce Christ en prend doute et a raison. Verser une goutte et prier aux croyants, ce Christ en prend doute et a raison.
À suivre, épisode 4, les pilules pullulent.